Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi astafa amma ba'du.
Nous avons eu l'idée de faire cette conférence comme un mini séminaire, c'est-à-dire on est à deux participants avec Oustad Abou Asim et moi-même, car souvent les gens posent des questions concernant les cours qui sont dispensés à l'Institut Sunnah. Aussi, nous avons voulu rappeler l'importance de l'apprentissage de la langue arabe qui est la clé pour avoir accès à toutes les autres sciences religieuses et aussi l'importance de la connaissance des bases de sa religion pour pouvoir les mettre en pratique. Donc comment va s'articuler cette intervention aujourd'hui? En premier lieu, Oustad Abou Asim va prendre la parole pour faire une intervention concernant l'importance de la langue arabe en général, puis exposer nos manuels, comment ils sont composés, nos programmes, en combien de niveaux nous avons partagé nos programmes, car il y a eu des changements au cours des années. Aussi, les objectifs qu'on souhaite atteindre à travers ces différents programmes, etc., etc. De même qu'il va développer le nouveau programme qu'on a mis en place pour les enfants et pour les adolescents, Inch'Allah. Aussi, il faut savoir que on a voulu, à l'Institut Sunnah, faire en sorte de proposer un programme de langue arabe et de sciences islamiques adapté à des personnes qui ne sont pas complètement libérées pour apprendre les sciences religieuses ou l'arabe. C'est-à-dire aux personnes qui ont des activités, que ce soit des hommes qui ont des activités professionnelles ou que ce soit des femmes qui ont des activités dans leur maison et des responsabilités. Bien sûr, plus les niveaux avancent, plus cela demande du travail et de la rigueur. Mais nous avons vu avec les élèves avancés qu'il est fort possible de joindre entre ses activités mondaines et ses responsabilités et l'étude de la science et de la langue arabe si on s'arme de sincérité, d'une grande volonté et de sérieux dans le travail. Et la permission n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Oustad Abou Asim pour son intervention et juste après lui, je reprendrai la parole inshallah. Barakallahu fikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En introduction, je voulais vous entretenir sur l'importance de la langue arabe dans notre religion. En effet, la langue arabe bénéficie d'une noble notoriété non discutable, car c'est la langue qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie pour la dernière des révélations, révélée sur le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus éloquent des Arabes. Elle est donc la langue choisie par Allah pour son ultime livre, la langue du messager sallallahu alayhi wa sallam par laquelle il a transmis le message d'Allah et l'a expliqué, et ce fut aussi la langue des pieux ancêtres de cette communauté. Cet état de fait vient confirmer la prééminence de la langue arabe sur toutes les autres langues. Pour prouver cela, je m'appuierai sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole de son messager ainsi que la parole des salaf. Tout d'abord, dans le Coran, nous trouvons pas moins de 11 versets qui stipulent la descente du Coran en langue arabe ou qui évoquent la langue arabe sous d'autres aspects et tout cela preuve de sa place éminente et de sa valeur. Elle est tantôt citée pour lancer un défi aux Arabes de l'époque à produire un Coran similaire à celui révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit pour nous informer que la langue arabe doit nous permettre de comprendre le Coran et de raisonner sainement comme elle doit nous permettre de craindre Allah en comprenant ses injonctions ici et là dans le Coran ou bien de s'en rappeler. C'est la langue qu'Allah a choisie pour la révélation du Coran. قال الله جل وعلا Alif lam ra tilka ayatul kitab al mubin Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ce sont les deux premiers versets de la sourate numéro 12. Alif lam ra. Voici les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre en révélation un Coran arabe pour que peut-être vous le compreniez. C'est aussi une langue adéquate aux avertissements et aux bonnes annonces, comme Allah tabaraka wa ta'ala le souligne dans ce verset. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَرَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. La sourate numéro 46, le verset numéro 12. Avant lui, il y a eu le livre de Moussa en guide et miséricorde. Et celui-ci est un livre qui le confirme en langue arabe pour avertir les injustes et annoncer l'heureuse nouvelle aux bienfaiteurs. La langue arabe est la langue la plus explicite, la plus claire, celle capable aussi d'exprimer en peu de termes des sens profonds et conséquents. D'ailleurs, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a expliqué pourquoi ce fut la langue arabe qui fut choisie pour la révélation du Coran en disant « Ceci, car la langue arabe est la plus éloquente des langues, la plus claire et la plus vaste. Elle est celle qui restitue le plus les sens et les sentiments que ressentent les personnes, et c'est pour cette raison qu'Allah a révélé le plus noble des livres dans la plus noble des langues. » Fin de citation. Nous trouvons aussi dans la Sunna des paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui viennent nous montrer la valeur, la noblesse, la prééminence dont est dotée la langue arabe sur toutes les autres langues. Dans le hadith de Abi Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, u'titu fawatih al-kalim wa khawatimah. Qulna ya Rasulullah, allimna mimma allamaka Allahu azza wa jal, fa'allamana at-tashahhud. C'est un hadith authentique que vous pouvez trouver dans As-Silsilat al-Sahiha de Sheikhun al-Albani sur le numéro 1483. D'après Abi Musa al-Ash'ari qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a octroyé l'éloquence dans les paroles à ses débuts et à ses fins. C'est-à-dire que le messager savait, sallallahu alayhi wa sallam, savait comment débuter un propos avec éloquence, en choisissant les termes les plus appropriés, et savait où s'arrêter, en attisant par là même la curiosité à son auditoire à le pousser à l'écouter davantage. De même, les salafs ont attaché une grande importance à la langue arabe, et ils considéraient que l'apprentissage de la langue arabe faisait partie intégrante de la religion, comme l'a souligné Abu Amr ibn al-Ala, qui considérait que la langue arabe faisait partie de la religion, l'une ne pouvant se dissocier de l'autre. Et on rapporta cette parole à Abdullah ibn Mubarak, qui la confirma. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, l'habitude à parler en arabe a un impact conséquent, positif sur la raison, la moralité et la religion de la personne. Cela influe aussi dans le fait que l'on s'assimile par cela au tout premier de cette communauté parmi les compagnons et ceux venus après eux. Car s'assimiler à cela, c'est-à-dire au salaf, accroît la raison, la religiosité et la moralité. De plus, la langue arabe fait partie intégrante de cette religion et son apprentissage et sa connaissance est une obligation qui incombe à chacun. Car la compréhension du Coran et de la Sunna est une obligation. Et leur compréhension est liée à la compréhension de la langue arabe. Et toute obligation qui ne peut s'accomplir qu'à travers une tierce chose rend cette dernière obligatoire. Autrement dit, si l'apprentissage du Coran et de la Sunna est une obligation, alors l'apprentissage de la langue arabe l'est tout autant, car elle est un moyen qui permet de comprendre le Coran et la Sunna. En regard de tout cela, l'Institut Sunna attache une grande importance à la langue arabe car elle constitue le pont entre la personne et la compréhension de la religion. Les sciences de la langue arabe sont au nombre de 12. Les savants s'accordent pour dire que les sciences de la langue arabe sont au nombre de 12, même si sur certaines de ces éléments, ils peuvent diverger. Il y a tout d'abord un nahfou, la grammaire, un sarfou, la morphologie, al-aroud. Ce sont les sciences de la métrique poétique. Al-Qawafi, ce sont les sciences des rimes. Matnul Lughat al-Arabiyya, ce sont la science qui permet de comprendre le sens des termes. On trouve cela d'ailleurs, notamment dans les dictionnaires. On a Al-Shi'r, la poésie. On a Al-Nathr, la prose. Notamment aussi la rédaction des lettres, des missives ou des discours. On a les règles d'écriture. On a Al-Bayan. Al-Bayan, c'est la science qui te permet d'exprimer un sens précis par différentes tournures de phrases ou de figures de style. On a la science d'Al-Ma'ani, qui est la science qui te permet d'exprimer un sens précis au moment opportun, selon une situation précise et un interlocuteur précis en utilisant des propos adaptés à la situation. On a al-muhadarat. C'est la science qui t'enseigne comment rapporter les propos des gens éloquents au moment opportun et approprié. Et enfin, on a la science de l'étymologie des mots et ses dérivés. Al-mulishtiqaq. Dans chacun des 9 niveaux que constitue notre cursus en langue arabe, nous attachons une grande importance à la grammaire, à nahou, à la morphologie, au sarf et à la balagh. Car ces 3 sciences, en réalité, sont axées sur les 3 niveaux de la parole ou de l'écriture. Les lettres, les mots et les phrases. En effet, à sarf, la morphologie va traiter avant tout des lettres à l'intérieur d'un mot, leur changement, leur substitution, leur disparition, comment la structure d'un mot s'agence au niveau de ces lettres dans des contextes différents. Ça, c'est la science du sarf. Puis il y a la grammaire, al-nahu, qui est une base essentielle dans la langue arabe car elle te permet de connaître la fonction des mots dans une phrase et de comprendre la phrase ou la parole en question. Et enfin, il y a la balagh. Elle est axée sur les phrases et les tournures, soit pour un sens précis par plusieurs figures de style, soit pour adapter les propos à une situation donnée, soit tout simplement pour embellir cette parole. Tout cela, nous l'étudions dans al-balagh. Ceci étant dit, penchons-nous maintenant sur le contenu de nos différents niveaux que nous avons établis dans l'Institut Sunna. Tout le programme de l'Institut Sunna, comme l'a souligné l'Oustad Abou Laïs, a été pensé pour des gens francophones ayant une activité professionnelle ou familiale et ne pouvant donner que quelques heures par semaine de leur temps. Donc c'est un programme adapté au quotidien des gens en général qui ne peuvent se libérer que le soir ou le week-end ou ne donner que quelques heures de leur temps dans la semaine. Pour l'ensemble de nos niveaux adultes, nous utilisons nos propres manuels, ce qui nous permet, après retour d'expérience, de pouvoir ajuster le contenu de nos manuels, c'est-à-dire de rajouter certaines choses, d'en retirer d'autres, de corriger certaines petites erreurs, en résumé, de faire des mises à jour fréquentes de nos livres et de notre programme, et tout cela au bénéfice de l'étudiant. Concernant les manuels enfants, à ce jour, nous avons nos propres manuels pour l'ensemble des 3 niveaux enfants. Maintenant, penchons-nous sur le niveau 1 adulte. Ce niveau 1 est destiné aux débutants qui ne savent ni lire ni écrire l'arabe. Donc ils commenceront par apprendre l'alphabet en apprenant les lettres les unes après les autres. Tout cela étayé par des exercices de lecture, d'écriture et de diction. On apprendra 3 lettres par cours, sauf dans les premiers cours où ce sera une lettre ou deux seulement, afin que l'étudiant puisse comprendre le mécanisme de lecture et d'agencement des lettres les unes par rapport aux autres. Cela nous amènera au bout de 13 semaines à la fin de l'alphabet, qui correspond à peu près au premier tiers de l'année. Les 2 tiers restants de l'année porteront sur l'étude de texte, où il sera demandé à l'étudiant d'apprendre un certain nombre de mots de vocabulaire. Cette partie de l'année aussi comprendra des règles de base de grammaire, des règles de lecture du Coran, et cela afin d'emmener progressivement l'étudiant à ouvrir le Coran en arabe et à le lire. Et aussi des exercices divers et variés permettant ainsi à l'étudiant de venir consolider sa lecture, son écriture et d'accroître son vocabulaire. En résumé, l'objectif du niveau 1, adulte, est de permettre à l'étudiant de commencer à lire en arabe, notamment à lire le Coran, et d'écrire. Le niveau 2, dans ce niveau, l'enseignant doit progressivement parler en arabe avec ses étudiants afin que l'étudiant s'habitue à écouter les mots, les phrases en arabe. C'est un niveau essentiellement basé sur le développement de l'oral, et cela à travers des textes en forme de dialogue permettant ainsi à l'étudiant de reprendre ses expressions arabes, de les assimiler, de les répéter, de s'entraîner dessus, notamment dans la mise en situation en binôme, comme je vais l'expliquer. À travers ces textes de la vie de tous les jours, où il sera tantôt à l'école, tantôt au marché, tantôt dans une boutique, tantôt en train d'accomplir le pèlerinage, bref, dans des situations diverses et variées, nous allons mettre en avant le vocabulaire utilisé dans chacune de ces situations. Vocabulaire que devra apprendre l'étudiant. Il apprendra aussi en parallèle les nombres, les couleurs, les mois, les jours de la semaine. Il saura se présenter. Il y aura aussi des règles de grammaire qui viendront faire comprendre la structuration des phrases. Ce niveau 2 a la particularité d'avoir pour chaque cours théorique un cours pratique dans la semaine qui suit. À savoir qu'une semaine sur 2, les élèves ne travailleront que l'oral en classe par binôme ou en groupe. Tout cela dans l'objectif de permettre à l'étudiant de développer ses facultés orales en arabe et de consolider les bases qu'il a apprises au niveau 1. Le niveau 3 est un niveau qui demande à l'élève un peu plus d'efforts dans le travail qu'il va fournir en classe ou à la maison. Dans ce niveau, l'enseignant parlera essentiellement en arabe. Ce niveau comprend 27 études de texte qui portent soit sur les récits de tous les premiers prophètes, comme Adam, Nuh, Ibrahim, alayhim salam jami'an, soit sur la période avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit des textes liés à la culture générale, comme l'état du monde islamique de nos jours, ou l'évolution des moyens de communication, ou d'autres sujets de culture générale. À chaque texte, il y aura de la lecture, de l'écriture, à travers les dictées, et des exercices de compréhension de texte. De même, il sera demandé à chaque cours, à chaque étudiant, une dictée qui sera notée, de la lecture qui sera notée, et du vocabulaire qui sera noté. Ce sont des contrôles continus hebdomadaires. Après l'étude de texte, nous intégrons parfois quelques utilités dans la langue arabe que nous appelons al-fawaid al-lurawiyya, qui serviront sûrement l'étudiant dans son cheminement et son apprentissage. L'autre grande partie de ce niveau, après l'étude des textes, est la grammaire. Et pour cela, nous avons choisi de proposer Muqaddimatul al-Juramiyya, qui est un livre qui est principalement destiné aux arabophones débutants dans la grammaire. Seulement, nous le présentons aux étudiants du niveau 3. Nous pensons qu'ils sont amplement capables de pouvoir l'étudier selon notre méthode. Donc, nous avons aussi voulu faciliter l'apprentissage de ce livre de référence dans la grammaire et nous l'avons présenté de ce fait avec son texte de base en forme de schéma explicatif permettant à l'étudiant de bien comprendre les différentes catégories et ses subdivisions. C'est aussi dans ce niveau que nous commencerons à aborder l'analyse grammaticale al-i'rab et cela de manière succincte. Enfin, dans ce niveau, nous aborderons la morphologie al-sarf en tant que cours à part entière, car certains principes de sarf ont déjà été vus dans les niveaux précédents, mais pas de manière structurée en tant que cours, mais de manière éparpillée ici et là. L'objectif de ce niveau est de permettre à l'étudiant de développer la compréhension, d'apprendre les bases essentielles de la grammaire et de consolider ses connaissances précédemment acquises. Nous passons maintenant au niveau 4 et 5 que je vais traiter en même temps. Ce sont deux niveaux similaires quant à leurs objectifs et à leur contenu. Ces deux niveaux comprennent chacun 27 textes. À travers ces deux années, nous achevons l'histoire des prophètes et la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Les premières parties de ces textes étant traitées au niveau 3. Ainsi que la biographie des califes bien guidés, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib et Hassan ibn Ali. Nous y avons aussi intégré des textes de culture générale, comme la crise sanitaire dans le tiers-monde, l'importance de la préservation de l'environnement, etc. Et nous ajoutons parfois une biographie d'une des figures emblématiques des pieux prédécesseurs de cette communauté, comme c'est le cas de l'imam al-Bukhari, comme ce sera plus tard le cas de l'imam Muslim ou de Khadija bint Khawailid, et d'autres grandes figures parmi les pieux prédécesseurs. Dans le niveau 5 plus particulièrement, nous entamerons l'étude littéraire de la période préislamique. On rentrera dans ce qu'on appelle en arabe l'adab. C'est une chose essentielle pour comprendre le contexte dans lequel fut révélé le Coran et de comprendre ainsi le sens de certains versets du Coran. Du côté grammatical, nous étudierons le livre de Mutammimatul Al-Juramiyya de Shamsuddin Al-Ru'ayni Al-Hattab, qui est un savant du Xe siècle de l'Égypte. Ce livre-là est une suite logique au livre qui a été enseigné au niveau 3, Muqaddimatul al-Juramiyya. L'étude de ce livre se fera donc sur deux années, au niveau 4 et au niveau 5, de telle sorte que l'étudiant au bout de ces deux années aura appris ce qu'il faut apprendre dans la grammaire avec l'étude de ce livre. Ce livre-là, Mutammimatul al-Juramiyya, vient compléter certaines notions qui sont présentes dans la Muqaddimat al-Juramiyya qu'on étudie au niveau 3 de l'Institut Sunna, et elle vient aussi rajouter des informations qui n'étaient pas présentes et des notions qui n'étaient pas présentes dans Muqaddimat al-Juramiyya. Tous ces cours de grammaire aussi, dans les niveaux 4 et 5, seront aussi étayés par des schémas explicatifs tout au long du livre. Dans ces niveaux, on étudiera aussi As-Sarf en étudiant d'abord le niveau 4, ce qui se rapporte au verbe, et au niveau 5, ce qui se rapporte au nom. Et enfin, c'est à partir du niveau 5 que nous entamons Al-Balara, dont j'ai expliqué certaines de ces parties dans mon introduction. Al-Ma'ani, Al-Bayan, Al-Badia. Au niveau 5, ce sera juste une introduction sommaire en citant les trois grandes parties de la Balara. Mais l'étude de la Balara en détail commencera réellement au niveau 6. Enfin, nous avons des niveaux vraiment avancés du niveau 6 à 9. Ce sont 4 niveaux pour ceux et celles qui veulent approfondir leurs connaissances déjà acquises dans les niveaux précédents. Concernant l'étude des textes, elles porteront sur l'étude littéraire des textes suivant leurs époques, en partant de la période islamique, puis celle des Omeyyades, puis celle des Abbasides, puis les textes de littérature, que ce soit en prose ou en poésie, durant la guerre des croisades, durant l'époque des états successifs survenus après l'effondrement de la dynastie des Abbasides, après la chute de Bagdad, de la littérature en Andalousie, et enfin, les textes de l'ère contemporaine. Tout cela sur 4 années. Il y aura aussi, comme dans les niveaux précédents, des biographies d'hommes et de femmes vertueuses parmi nos pieux prédécesseurs et des textes de culture générale. Concernant la grammaire et le sarf et la morphologie dans ces 4 niveaux, nous étudierons Al-Fiyat ibn Malik, qui est un poème de 1000 et quelques vers qui traite de la grammaire et de la morphologie. On partira donc sur une base de 250 vers, de l'étude de 250 vers par année, ce qui nous fera finir au niveau 9 l'étude complète de Al-Fiyat ibn Malik, livre de référence que vous connaissez tous. Pour la Balara, nous étudierons ces différentes grandes parties comme Al-Ma'ani ou Al-Bayan ou Al-Badir. Il sera prévu aussi dans ces niveaux avancés de demander à l'élève de faire des recherches sur un sujet précis qu'il devra présenter en fin d'année. Comme il sera prévu aussi la lecture de certains ouvrages de référence dans la langue arabe d'une manière générale dans l'une des 12 catégories que j'ai citées dans mon introduction. Voilà en résumé un panorama des différents niveaux adultes que nous proposons dans la langue arabe. Concernant maintenant les niveaux enfants, ils sont au nombre de 3. Le niveau 1 est similaire au niveau 1 adulte, mais adapté aux enfants quant au choix des textes, des exercices et aussi de la présentation du manuel. L'objectif est que l'enfant sache lire plus ou moins fluidement en fin d'année et écrire. Il aura aussi appris un minimum de vocabulaire à travers l'apprentissage des lettres et des textes à la fin du livre. Aussi, nous avons voulu que ces textes en deuxième partie d'année traitent des règles de politesse et de bienséance, ainsi que des bons comportements et haute moralité dont doit s'imprégner l'enfant à son âge, et cela dans un souci d'éducation. L'objectif de ce niveau 1 enfant est de fluidifier la lecture, qu'il sache faire une dictée et qu'il puisse apprendre un minimum de vocabulaire. Les niveaux 2 et 3 enfants sont une suite logique au niveau 1, mais ils seront beaucoup plus axés sur le développement de l'oral, où un texte sur 2 est un dialogue qui sera lié dans son sens au texte de la semaine précédente. Ainsi, l'enfant pourra s'exercer en classe comme il pourra s'exercer aussi à la maison pour développer ses facultés orales. Il y aura aussi des règles de base de grammaire permettant à l'enfant de comprendre les mécanismes de structuration de la phrase en arabe, et tout cela sera agrémenté d'exercices ludiques et instructifs. L'objectif de ces 2 niveaux sera de développer l'oral, l'apprentissage de certaines règles de grammaire et de vocabulaire essentiels comme les couleurs, les nombres, les fruits et légumes, le corps humain, etc., et de consolider les acquis des niveaux précédents. Au bout des 3 niveaux enfants, l'enfant sera capable de lire fluidement, d'écrire correctement, de parler en arabe avec des phrases simples et de connaître les règles essentielles de grammaire. Il pourra aussi par là même ouvrir le Coran et le lire et pouvoir être autonome dans l'apprentissage du Coran. Nous espérons par ce travail l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il soit bénéfique et profitable aux musulmans. Il est clair que nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection dans ce que nous proposons, mais nous essayons chaque année de nous améliorer. Nous savons que tout ce que nous proposons est besoin de tout le monde, de nos élèves, de nos professeurs, pour nous aider à nous améliorer chaque année et de proposer un enseignement de qualité à la hauteur de vos ambitions. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. Je laisse la parole à l'Ustadh Abu Laith. حفظه الله تبارك وتعالى.
آمين آمين. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا على هذه المداخلة. نسأل الله أن يثيبك عنها وأن يتقبلها منك. Avant de développer la partie qui m'a été
désigné, je voulais donner une vue d'ensemble des cours après que Oustad Abou Asim Jazallahu Khairan a détaillé le programme de chaque année et les objectifs à atteindre en langue arabe. Il n'a pas parlé du côté religieux car c'est ce qui m'a été désigné. La première chose que l'on peut dire, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les professeurs qui enseignent à l'Institut Sunnah et la direction sont dans l'enseignement depuis une vingtaine d'années, dans différentes structures, dans des mosquées, dans des instituts qui ne s'appelaient pas auparavant Institut Sunnah, jusqu'à qu'Allah ta'ala nous ait permis de fonder l'Institut Sunnah il y a à peu près 11 ans de cela. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les professeurs qui enseignent ou qui dirigent, par la grâce d'Allah, sont des professeurs expérimentés, qui essayent de donner tout leur temps, tous leurs efforts pour faire profiter les élèves de leur expérience, de la science qu'ils ont acquis auprès des savants et auprès de leurs professeurs, pour en faire profiter le maximum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est que l'objectif de la fondation de cet institut est d'abord et avant tout un objectif éducatif et de da'wah. Pour nous, la langue arabe et les sciences religieuses ne sont pas une fin en soi. C'est un moyen qu'on utilise pour pouvoir éduquer les générations à venir, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les éduquer sur la foi correcte, les éduquer sur l'islam, les éduquer sur les politesses islamiques, les règles de bienséance islamique. L'objectif de tous les professeurs à l'Institut Sunna est cela, et rien d'autre. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer la sincérité en cela et de nous permettre d'agir au mieux pour l'intérêt de la communauté. C'est pour cela que vous verrez que l'on donne beaucoup d'importance à ce que le programme se complète l'un l'autre. Les sujets qui sont traités en langue arabe, par exemple tout ce qui est biographie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des prophètes, des grandes personnalités de l'islam, des textes de la vie tous les jours, toujours empreints de politesse et croyances islamiques, bien sûr. Ils sont venus compléter ce dont on n'a pas le temps de développer dans les cours religieux. Par exemple, d'expliquer un cours de sirah à part entière. Comme on n'a pas le temps de le faire, car les élèves ne sont pas complètement libérés pour apprendre la science, donc on a intégré les textes de sirah, de la vie prophétique, de la vie des prophètes, dans les textes de la langue arabe. Et non pas faire des textes pour faire des textes, mais profiter des textes pour en tirer en même temps une morale et une éducation, tout en apprenant et en consolidant sa langue arabe. Autre chose dont je voulais parler avant de parler de mon sujet, c'est l'évolution du nombre d'heures de cours tout au long de l'évolution des années. La première année, les élèves n'ont que 3 heures de cours par semaine, à peu près 2h30 de langue arabe ou 2h20, et une quarantaine de minutes de cours religieux. La deuxième année, idem. À partir de la troisième année, puisque les 2 premières années, les cours sont donnés en langue française, que ce soit les cours d'arabe ou les cours religieux. Bien qu'en deuxième année, on commence à intégrer un petit peu plus la langue arabe. À partir de la troisième année, le professeur, que ce soit le professeur de langue arabe ou le professeur de sciences islamiques, commence à expliquer et à parler en langue arabe. Bien sûr, en troisième année, il va répéter, il va parler lentement, avec des mots faciles. Parfois, il va même traduire certains mots. Car les élèves sont encore novices dans la compréhension et l'écoute d'un cours en entier en langue arabe. Et c'est à partir de la quatrième année où vraiment là, les cours religieux et les cours de langue arabe sont donnés en arabe d'une manière un peu plus rapide et normale. À partir de la troisième année, puisque c'est une année quand même qui est importante, c'est une année où le niveau commence à augmenter, où l'élève doit fournir un peu plus d'investissement et d'effort. Donc, il aura 3 heures de cours d'arabe seul et 1h30 de cours religieux seul. Donc, il aura 2 jours de cours par semaine au lieu d'un jour qu'il avait dans les 2 niveaux qu'on considère être comme 2 niveaux débutants, premier et deuxième niveau. Puis, au quatrième niveau, il aura 3h30 de cours d'arabe et 2 heures de cours religieux, ce qui fait 5h30 en tout par semaine. Donc là, on voit que le niveau commence aussi à augmenter dans l'investissement, que ce soit pendant les cours ou même en dehors des cours. Et cela continue au niveau 5, 6, 7, 8, 9, qui sont à peu près sur le même rythme, c'est-à-dire à peu près 3h30 de cours d'arabe et 1h30 à 2h de cours religieux. Donc vous voyez qu'une personne qui est motivée, qui est armée d'une grande volonté et de sincérité, à qui Allah Ta'ala a donné la permission, tout en travaillant à côté ou tout en ayant des responsabilités à la maison pour les sœurs à côté, peuvent très bien atteindre des très bons niveaux, que ce soit en langue arabe ou en sciences religieuses. Et je vous annonce la bonne nouvelle que ce ne sont pas que des théories. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nombre d'élèves qui ont appris chez nous la langue arabe et les sciences religieuses sont devenus des étudiants en sciences confirmés, qui sont sortis et diplômés des plus grandes universités dans le monde musulman, ou même certains d'entre eux n'ont étudié que chez nous, qui n'ont pas pu voyager, et par la grâce d'Allah ont atteint un certain bon niveau, ils sont devenus d'ailleurs professeurs chez nous. Donc c'est pour montrer que si quelqu'un est motivé, sincère dans son apprentissage, et y met de la volonté et du sérieux, il peut atteindre des niveaux très louables, que ce soit en langue arabe ou en sciences religieuses, pour pouvoir en profiter, faire profiter les gens autour de lui, et même parfois pouvoir être professeur et donner des cours, et être investi même dans la da'wah. Donc, ceci est très important. Dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet concernant ce qui m'a été désigné. L'Institut Sunna, depuis quelques années, ne donne plus de cours en présentiel. Nous ne donnons plus que des cours en ligne. Effectivement, le fait d'être en présentiel, il y a un intérêt éducatif supplémentaire. On peut mieux éduquer les élèves à la modestie, aux politesses de l'islam, aux politesses de la science, reprendre l'interaction entre professeurs et élèves. Mais, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ, avec les difficultés que vous connaissez en France, puis alhamdulillah, toute l'équipe de l'Institut Sunna, tout le monde a fait la hijra dans différents pays musulmans. Donc, maintenant, nos efforts se concentrent essentiellement en ligne. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une interaction, car les cours en ligne sont quand même dans des classes, ce ne sont pas des cours préenregistrés. Il y a une interaction entre le professeur et les élèves peuvent poser des questions, bien que ce ne soit pas aussi parfait que si on était en classe. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, beaucoup de gens qui avaient des appréhensions quant aux cours en ligne, quand ils ont commencé avec nous le niveau 1, ils en ont été très satisfaits car ils ont vu qu'il y a une interaction, il y a des cours en direct. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on évite d'enregistrer même les cours et de laisser le choix aux élèves d'écouter un cours plus tard. Non, ils participent en direct comme si on était en classe, à une heure précise, justement pour se donner cette rigueur et faire comme si on était dans une vraie classe. Voilà quelques rajouts, quelques points que je voulais rajouter à ce que Oustad Abou Asim m'a dit concernant la langue arabe. Maintenant, concernant les sciences religieuses, أقول وبالله التوفيق الحمد لله الذي رفع بالعلم العلماء وجعلهم ورثة للأنبياء فهم شهداء الله في الأرض والأولياء وحق الناس بعد النبيين بالاقتداء وأصلي وأسلم على خير الورى إمام الأتقياء وأفضل الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont la même valeur? Allah tabaraka wa ta'ala dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux à qui nous avons donné la science de plusieurs degrés, dans le sens de sa parole. Allah Ta'ala a dit, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Certes, ne craint réellement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Allah Ta'ala a dit, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ô Seigneur, rajoute-moi de la science. Il n'y a pas une chose que Allah Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander qu'Allah lui en donne en plus et lui en rajouter si ce n'est la science. Cette science énoncé dans ces versets et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science religieuse. C'est la science de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam comme preuve évidente et guidée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni dirham. Avant cela, il a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Certes, les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé cette science. Alors celui qui l'a prise a pris la plus grande part en islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend un chemin pour apprendre la science, Allah lui facilite un chemin pour l'accès au paradis. Et certes, les anges rabaissent leurs ailes par modestie pour celui qui sort pour apprendre la science, pour l'étudiant en science, car ils sont satisfaits de ce qu'il accomplit. Et sachez que le savant, toute chose dans les cieux et la terre, demande le pardon d'Allah pour lui. Même les poissons dans l'eau et même les fourmis dans leur trou. La supériorité du savant par rapport au dévot, c'est-à-dire celui qui adore Allah la nuit, qui prie la nuit et qui jeûne le jour, est comme la différence et la supériorité qu'il y a, que la lune a sur toutes les autres étoiles. La pleine lune, la supériorité de la lumière de la pleine lune par rapport à toutes les autres étoiles. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la supériorité du savant par rapport au dévot est comme ma supériorité à moi par rapport à celui qui est le plus bas d'entre vous. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, celui qui cherche cette science par la royauté, la force, l'honneur, il ne réussira pas. Par contre, celui qui veut l'atteindre, il doit la chercher en rabaissant sa personne, en se serrant la ceinture et en vivant de peu, et en étant au service des gens de science, alors celui-là réussira. Il a dit dans une autre parole, « J'aurais bien aimé que toutes les personnes connaissent cette science sans que rien ne me soit attribué. » C'est-à-dire son objectif n'était pas de s'élever lui-même, mais élever la parole d'Allah, que les gens apprennent la vérité. Rahimahullah. Et la science, comme a dit Ibn al-Qayyim, « Al-ilmu, qala Allahu, qala Rasuluhu, قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. C'est ça la science. Donc, c'est la connaissance de la révélation et sa compréhension. D'ailleurs, dans le hadith de Muawiyah rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde une compréhension saine de la religion. Il le rend versé dans les sciences de la religion. Ce hadith met en lumière un des mérites les plus élevés de la connaissance religieuse, à savoir que le savoir bénéfique est un signe de bonheur pour le serviteur, car son acquisition signifie qu'Allah lui veut du bien. La compréhension de la religion englobe les fondements de la foi, c'est-à-dire les six piliers de la foi, les principes et règles de la loi islamique, mais aussi les préceptes régissant le concept de perfection, c'est-à-dire l'ihsan. La religion entière s'articule autour de ces trois concepts. Ainsi qu'il a été cité dans le hadith de Jibril, alayhi salat wa salam, qui questionna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'iman, sur la foi, sur l'islam, l'islam est sur l'ihsan, la perfection dans la foi et dans l'islam. Et auquel le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam répondit en délimitant la définition et les contours de chacun de ces concepts. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décrivit la foi par ses six fondements, l'islam par ses cinq piliers et la perfection dans la foi et l'islam en les termes suivants. Il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui, certes, te voit. الفقه في الدين, la compréhension de la religion, consiste donc à en comprendre la croyance, le credo et la méthodologie adoptée par les pieux prédécesseurs à ce sujet, tout en la mettant en pratique, tant en apparence qu'intérieurement. Il s'agit également de connaître les méthodologies des sectes égarées et opposées à cette croyance, et de savoir en quoi elles divergent des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La compréhension de la religion, c'est également acquérir le savoir de la jurisprudence, al-fiqh fid-din, ses fondements et ses détails, comme les principes régissant les actes d'adoration, les transactions commerciales, les relations sociales, les peines légales et autres. La compréhension de la religion signifie en outre comprendre les concepts ayant trait à la perfection dans la foi et dans l'islam, à savoir comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tazkiyah, c'est-à-dire la science pour se purifier son âme, d'une manière conforme aux principes du Coran et de la sunna, et non pas de la manière des sectes soufis qui ont pris leurs coutumes et leurs pratiques des hindous, des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, mais jamais du Coran et de la Sunna. On n'oubliera pas de mentionner que la compréhension de la religion c'est également s'instruire sur tous les moyens facilitant l'acquisition du savoir religieux, comme les sciences de la langue arabe, comme l'a cité Oustad Abou Asim, jazakallahu khairan, et ce qui s'y apparente, c'est-à-dire ulum al-ala, les sciences outils, c'est-à-dire les sciences qui servent à comprendre, qui ne sont pas des objectifs en soi, mais qui servent à comprendre le Coran et la Sunna, et qui servent à comprendre les règles découlant du Coran et de la Sunna. Par conséquent, quand Allah tabaraka wa ta'ala veut le bien d'une personne, il lui fait don de toutes ses connaissances en lui en facilitant l'acquisition. On peut dire par réciprocité que ce hadith, le hadith de Muawiyah, sous-entend que se détourner complètement de l'acquisition de ses connaissances indique qu'Allah ne veut pas du bien à la personne concernée, car il l'aura privé des moyens lui permettant de parvenir au bien et au bonheur. En partant de ce postulat, nous avons réfléchi et essayé d'établir un programme de cours religieux pour les élèves de l'Institut Sunna, adapté à leurs différents niveaux et à leurs besoins. Ainsi, en première année, quand ils sont débutants, ils apprennent à lire et écrire, ils étudient en parallèle le livre « Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté » écrit par Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. C'est un livre qui est d'une utilité énorme, qui est essentiel pour tout musulman, comme le titre l'indique. Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire que la personne va y aborder les piliers de la foi, les piliers de l'islam, les règles de la purification et de la prière, les règles concernant les politesses, les règles de bienséance et de bienfaisance, ainsi que certaines règles concernant la prière mortuaire. Il est donc essentiel pour tout musulman d'étudier ce livre, qui plus est avec un professeur qui peut lui expliquer, bien sûr succinctement, sans rentrer dans les détails trop compliqués pour un débutant, ses bases de l'islam. Nous nous sommes dit, si une personne comme ça vient chez nous qu'une seule année, il a appris à lire et écrire, beaucoup de gens ne se suffisent que de ça, au moins il sera reparti avec les bases de l'islam, dans sa foi, dans sa croyance, dans sa pratique, dans son comportement. Aussi, il ne faut pas oublier que dans chaque année de cours d'arabe, il y a des conférences. Deux conférences par année. Une conférence en début d'année et une conférence au début du deuxième semestre, qui sont des conférences très utiles pour l'étudiant en sciences. Que ce soit des conférences sur l'apprentissage de la science et les politesses dans la manière d'apprendre la science, que ce soit des conférences sur la bonne voie à suivre, la méthodologie des salafs dans la religion et la voie à suivre, que ce soit des conférences sur la manière d'utiliser les dictionnaires et de certains points précis en langue arabe qui ne seront pas peut-être abordés totalement dans les cours d'arabe. Donc nous avons essayé de cette manière-là de diversifier les conférences pour résumer certains aspects et certains points essentiels, que ce soit dans les sciences religieuses ou dans la langue arabe, qui ne seront pas totalement abordés au long des cours et de l'étude des livres. Donc ça, c'est pour le premier niveau, adulte. Pour les enfants, il y a un livre adapté aux enfants. Concernant le niveau 2, adulte, il y a souvent des élèves qui n'ont pas étudié le niveau 1 avec nous. Ils arrivent directement au niveau 2 car ils avaient déjà appris à écrire et lire dans d'autres structures et quelques bases de grammaire et de tajwid. C'est-à-dire on considère qu'ils peuvent passer au niveau 2. Ils ont acquis les chapitres demandés au niveau 1. Alors religieusement parlant, nous allons développer et étudier ensemble deux épîtres, deux manuels, deux livres. Le premier, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe des musulmans, écrit par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, qui aborde les six piliers de la foi. Alhamdulillah, ces livres ont été écrits par nos soins, traduits par nos soins. Il y a dedans des tableaux de vocabulaire, des pages de notes pour que l'élève puisse venir avec son livre et suivre et prendre des notes. Maintenant, je connais même des frères qui l'ont récupéré en PDF, qui prennent des notes directement sur le livre, sur leur iPad Pro, par exemple, ou autre, qui ne veulent pas, par exemple, avoir le livre en papier. C'est faisable aussi. Les deux livres qui sont étudiés, il y a un livre dans la croyance seul, qui est Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, dans lequel on a pu rajouter aussi des tableaux explicatifs, en plus de l'explication des chapitres du livre, et des questions-réponses. Pareil pour Ad-Durus al-Muhimma. Il y a des tableaux explicatifs supplémentaires et des questions-réponses, des questions aussi pour les élèves. Donc la croyance des gens de la Sunna doit être enseignée à peu près en un tiers de l'année scolaire. Puis les deux tiers restants, nous commencerons l'étude d'un manuel de fiqh, de jurisprudence islamique, qui est Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din de Cheikh l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Pourquoi ce livre? Premièrement, c'est un résumé. Et ce qui est approprié pour un débutant, c'est de commencer par des résumés et non pas par des livres très compliqués et très longs. Mais ce résumé a une particularité que les autres livres de fiqh, la plupart des autres livres de fiqh résumés n'ont pas. C'est que malgré qu'il soit très résumé, il y a beaucoup de preuves du Coran et de la Sunna qui y sont citées. En général, chez les fuqaha, les livres résumés, il n'y a pas beaucoup de textes cités, pas beaucoup de versets et de hadiths. Ils se contentent de citer les règles religieuses, les piliers de la prière, les obligations, les sunnans, les règles concernant la prière, etc., le wudu, voilà, sans citer ni de hadith ni de texte. Mais nous avons vu que ce livre, il a cette particularité, il est pour les débutants, il est court et résumé, et en plus, les textes y sont cités, pas mal de textes y sont cités, plus de 300, une cinquantaine de versets et 250 hadiths à peu près, plus de 250 hadiths. On parle bien sûr dans tout le livre, hein, dans tous les chapitres du livre. Par contre, en deuxième année, il n'y aura que deux chapitres qui seront étudiés. La purification et la prière. Sauf la prière mortuaire, car on n'a pas le temps de l'aborder. Elle sera laissée pour plus tard. De même, des tableaux explicatifs y sont rajoutés, en plus de l'explication du livre. Des annotations supplémentaires, des choses profitables annexes, pour que ce soit un complément pour l'élève qui en veut plus. Donc, vous voyez que dans ces deux premières années, qui sont enseignées en langue française, nous nous efforçons à donner les bases de ce que tout musulman a besoin dans sa vie, dans la croyance et dans la pratique. Mais pour pousser dans les sciences religieuses, il est nécessaire d'apprendre la langue arabe. Voilà pourquoi nous ne proposons que rarement ou jamais d'étudier des livres religieux plus poussés en langue française. Car nous considérons que pour les francophones, les livres de base sont suffisants pour une culture générale. S'ils veulent pousser, il faut qu'ils apprennent l'arabe. Car on ne peut pousser dans la science sans la langue arabe. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dès la troisième année, nous étudions en langue arabe Salasatul Usul, les trois principes de base de Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab et son explication. Et nous revoyons les mêmes chapitres de Manhaj al-Salikin que nous avons vus en deuxième année, mais cette fois en langue arabe, expliqué en langue arabe. Donc l'élève qui l'a déjà étudié en langue française, il va pouvoir réétudier ces mêmes chapitres-là, mais que en langue arabe. Il a toujours son manuel avec les tableaux de vocabulaire, il se rappelle de ses cours de l'année précédente, ce qui va l'aider à mieux pouvoir comprendre et assimiler toutes les terminologies et les termes spécifiques liés au fiqh, à la jurisprudence dans la langue arabe. Dès qu'on passe en quatrième année, on a maintenant 2 heures de cours religieux. On va pouvoir étudier la moitié du livre Kitab al-Tawhid, l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, bien sûr en langue arabe. Maintenant, tous les cours ne se font qu'en langue arabe. Et nous allons pouvoir terminer tous les chapitres liés aux adorations de Manhaj al-Salikin, c'est-à-dire al-Janaiz, les prières mortuaires, la zakat, le jeûne et le hajj. La umra et le hajj, bien sûr, ça va ensemble. Dès qu'on arrive en cinquième année, nous étudions la deuxième partie et nous finissons l'explication de Kitab al-Tawhid, puis nous voyons ensemble tous les chapitres concernant les ventes et les transactions financières en islam, du même livre, Manhaj al-Salikin. Puis arrivé en sixième année, nous prenons un nouveau livre dans la croyance, qui va parler plus des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va les aborder plus en détail. Qui est l'Wasitiyya de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Donc l'explication de l'Wasitiyya. Et nous allons prendre dans le fiqh, dans la jurisprudence, à partir du chapitre de l'héritage, jusqu'à la fin du livre de Manhaj al-Salikin. C'est-à-dire, en sixième année, tout le livre, tous les chapitres de fiqh ont été étudiés. Pour que vous ayez une idée, donc on a dit en cinquième année, ils vont voir toutes les ventes, les années précédentes, ils voient les adorations. La cinquième année, ils voient toutes les ventes et les relations financières et commerciales, ainsi que le testament. La sixième année, ils vont voir les règles de l'héritage, les règles liées au mariage, les règles liées à la dot, les règles liées au divorce, les règles liées aux périodes de viduité, les règles liées à la nourriture, les règles liées aux crimes et aux sentences en islam, et les règles liées aux plaintes et à tout ce qui est judiciaire en islam, le témoignage, etc., etc. Et ainsi, la personne aura fait un tour complet sur les chapitres essentiels du fiqh, de la jurisprudence islamique. Ça, c'est en sixième année. Il reste après cela combien de niveaux? 7, 8, 9, 3 niveaux. En 3 niveaux, en septième année, nous allons nous axer sur des sciences ulum al-ala, des sciences outils qui sont nécessaires à la personne qui veut pousser dans les sciences religieuses. Usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Mustalah al-hadith, la science du hadith. Usul al-tafsir, les fondements du tafsir, de l'explication, l'exégèse du Coran. Al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de jurisprudence. Toutes ces matières qui sont nécessaires pour pouvoir bien comprendre les règles religieuses, les règles liées au hadith, les règles de comment pouvoir devancer un avis sur un autre dans des avis religieux. La huitième et la neuvième année, l'étude de Umdat al-Ahkam, un livre de hadith comprenant les hadiths essentiels qui sont dans le Bukhari et Muslim sur les règles religieuses, sera étudié. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala nous a permis de pouvoir étudier tous ces livres avec certains de mes élèves qui étudient avec moi depuis 12 ans maintenant. Et même plus de livres que cela. Nous avons pu faire plusieurs fois Kitab al-Tawhid, al-Wasitiyya, on a fait Sharh al-Tahawiyya, on a pu faire tous les livres que j'ai cités là dans le programme, Umdat al-Ahkam deux fois, Al-Qawl al-Mufid de Sheikh al-Wasabi, et encore d'autres livres, alhamdulillah. Et par la grâce d'Allah, tous ces élèves continuent encore avec nous à suivre les cours. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont nos professeurs à l'Institut Sunna. Walhamdulillah. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a fini tous ces livres-là, l'objectif est de continuer toujours l'étude de livres. On prend un autre livre, on prend un autre livre, on prend un autre livre. C'est ce que je vous dis de ce que l'on fait maintenant avec ces élèves et cette classe qu'on a depuis 12 ans, où à chaque fois, il y a différentes études de livres religieux qui sont proposées une fois qu'on a fini tout le programme. Une fois qu'on a fini tout le programme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc voilà un peu comment sont présentés et quels sont les objectifs et l'évolution scientifique des élèves de l'Institut Sunna dans les cours religieux. Bien sûr, parfois, il se peut que nous proposions des stages d'enseignement d'un livre religieux en français. Parce que, on va dire, il y a beaucoup de demandes sur cela. Nous l'avons déjà fait au préalable, il y a plusieurs années, bien que, la règle de base est ce que nous avons dit. Nous considérons qu'en français, il faut se concentrer sur l'essentiel et les bases pour les musulmans, et que c'est une bonne chose pour l'élève de ne pas apprendre le religieux seul, ni l'arabe seul, mais qu'il apprenne et la langue arabe et les sciences religieuses en même temps, pour pouvoir avoir un niveau suffisant pour entrer dans les niveaux arabophones. Et Inch'Allah, un élève sérieux, qui suit les cours correctement, qui fait ses devoirs correctement, à partir de la troisième, voire la quatrième année, il sera en capacité d'écouter, de comprendre et de suivre les cours des savants en langue arabe. Et voire même plus que cela. Mais on va dire, ça c'est le minimum. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de continuer dans ses efforts, d'être sincères, et de nous permettre de nous améliorer toujours dans ce que l'on propose à nos frères et sœurs en islam, dans l'enseignement. Et je le répète, notre objectif est d'abord et avant tout l'éducation. L'éducation. Nous donnons une importance particulière à l'éducation. Et d'ailleurs, tous nos élèves le savent très bien, qu'on est souvent amené à les reprendre, à leur apprendre les bonnes politesses, à savoir comment se comporter entre eux, à savoir comment s'exprimer et comment se comporter avec les professeurs et comment l'aborder, ce qui malheureusement est perdu de plus en plus dans notre communauté et surtout dans la communauté francophone. Alhamdulillah, donc en plus de cela, nous proposons des cours de Coran. Les cours de Coran, ce sont des sessions, donc on a, on va dire, deux pôles dans l'Institut Sunna. Un pôle arabe et religieux qu'on lit ensemble, car on considère qu'ils vont ensemble, et un pôle Coran. beaucoup d'élèves s'inscrivent aux deux, c'est-à-dire qu'ils font l'arabe et le religieux, et en plus de ça, ils s'inscrivent à certains cours de Coran. Depuis qu'on est passé en ligne, nous avons changé notre méthode d'enseignement du Coran. Ce ne sont que des cours particuliers. Car auparavant, quand on était sur place, on pouvait se permettre d'avoir plusieurs élèves en même temps, de les écouter l'un après l'autre. Mais en ligne, ce n'est pas possible. Donc, c'est des cours particuliers d'une demi-heure par semaine minimum. Quelqu'un peut prendre deux créneaux, trois créneaux. Par exemple, si quelqu'un veut réciter trois fois par semaine, il va réserver trois créneaux. S'il y arrive, bien sûr, car les cours de Coran partent très, très, très vite. On a encore recruté de nouveaux professeurs, il s'est encore parti. On a encore recruté de nouveaux professeurs, tous les créneaux sont partis. Et encore, il y a encore des demandes de créneaux, pas, on n'arrive pas à y répondre. On n'arrive pas à y répondre, alhamdoulilah. C'est à croire que, inshallah, ils sont très bénéfiques, car beaucoup de gens veulent s'y inscrire. Donc, l'objectif est que tout au long de l'année, tous nos programmes dans l'année durent 33 semaines. Toujours, notre année scolaire, c'est 33 semaines. Ça commence fin septembre, ça finit fin juin, il y a deux semaines de vacances en décembre, en hiver, et il y a un mois de vacances pendant le Ramadan, où les gens peuvent faire des stages de renforcement à part avec nous, ou bien tout simplement profiter du mois de Ramadan pour profiter dans l'adoration, la lecture du Coran ou la révision. Donc, on va dire, on commence fin septembre jusqu'à fin juin pour 33 semaines de cours avec les examens compris et les remises de bulletins compris. Et pendant ces 33 semaines, il y a 6 semaines de vacances. Une fois 2 semaines, une fois 4 semaines. Donc, le Coran, c'est pareil. Les personnes qui font le Coran à l'année chez nous, il va avoir 33 semaines où il récite à son professeur, femme ou homme. Et nous proposons aussi des cours de tajwid théorique en groupe, en petit comité, trois niveaux de cours tajwid théorique. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nos professeurs, la plupart de nos professeurs hommes sont des gens qui mémorisent le Coran en entier et qui ont des ijazat, plusieurs ijazat dans le Coran. Alhamdulillah. Et par la grâce d'Allah, sachez que beaucoup d'entre eux ont fini le Coran à l'Institut Sunnah. Ils ont fini le Coran à l'Institut Sunnah, alhamdulillah. Je pense que on est à une quinzaine en tout de Huffaz qui sont sortis de l'Institut Sunnah. Et peut-être une vingtaine de personnes qui ont dépassé le niveau universitaire de la licence de Sharia ou de maîtrise de Sharia qui sont sortis de l'Institut Sunnah, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, on a aussi des cours théoriques, qu'on propose des cours théoriques hommes et femmes, plusieurs niveaux. Selon le niveau de l'élève dans sa connaissance de la théorie du tajwid, il va intégrer une classe où il y a une heure et demie de cours par semaine, dans lequel il y a un cours théorique et il y a aussi de la tilawa, de la lecture et de la correction. Bien sûr, dans les cours particuliers de Coran aussi, il y a de la correction. C'est-à-dire le professeur est là pour suivre l'élève, lui demander, le tester sur ce qu'il connaît, c'est-à-dire sur la révision, lui donner des devoirs à faire en révision, l'écouter sur la nouvelle partie qu'il a appris, le corriger avant qu'il apprenne la partie, ou quand il récite, le corriger sur les règles de tajwid. Sauf qu'il ne va pas lui donner un cours de tajwid théorique. Il va juste le corriger, lui dire tu récites comme ça, tu ne récites pas comme ça, corrige cette lettre, corrige cette récitation, corrige la runna, corrige le idram, par exemple. Donc, alhamdulillah, ça c'est un cours aussi qui est, je pense, un des plus populaires à l'Institut Sunna, car par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons beaucoup de professeurs dévoués qui donnent de l'importance à suivre leurs élèves et les motiver à avancer dans la mémorisation et la lecture du Coran. Barakallahu fikum. Naam Ustad Abu Asim.
Jazakallah khair jazay Ustad Abu Laith. Barakallahu fikum. Tu as pratiquement tout dit. Je voulais rajouter une dernière chose, inshallah. Vous avez peut-être pu comprendre à travers nos interventions que l'Institut Sunna demande une certaine exigence, une certaine rigueur dans l'assiduité, dans le sérieux, dans l'apprentissage, et tout cela est au bénéfice de l'élève. Car en réalité, après retour d'expérience, on remarque que les élèves qui ont un temps soit peu travaillé tout au long de leur cursus à l'Institut Sunna sont sortis avec des niveaux plus qu'acceptables, des niveaux qui dépassent même le niveau de personnes qui sont à l'université dans les pays arabes. Et donc, tout cela pour vous dire que le travail paye. Le travail paye et que même si ce niveau d'exigence que nous essayons de garder peut paraître parfois, difficile pour les élèves, il faut savoir que à la clé de tout cela, il y a Inch'Allah, des résultats qui seront satisfaisants et convaincants. Nous attachons une grande importance à cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. نسأل تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.